RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous parlons de la générosité depuis le début de cette semaine et aujourd'hui nous allons parler d'une monnaie, le temps, parce que le temps c'est souvent de l'argent, c'est souvent précieux et quelquefois ça fait encore plus mal de donner notre temps que de donner notre argent ou un meuble ou quoi que ce soit parce que le temps, on court tous un peu après le temps. Donc si vous êtes d'accord que le temps c'est précieux.
Super précieux.
Super précieux. Je n'ai pas une minute à t'accorder.
Le temps est plus important que l'argent.
Le temps est plus important que l'argent, oui.
J'aurais tendance à penser que les gens sont presque plus avares de leur temps maintenant, de nos jours, que de l'argent ou à égalité même.
Oui, on voit dans les familles, je prends cet exemple-là, mais quelquefois on peut payer des choses aux enfants, on peut leur offrir des cadeaux, leur offrir des activités, des sorties, des choses comme ça, mais sans leur offrir notre temps, du temps de qualité où on peut jouer, on peut les écouter, on peut faire la sortie avec eux. Et du coup, oui, quelquefois c'est plus facile de payer quelque chose, d'acheter quelque chose plutôt que de donner son temps parce que notre temps est directement relié à notre propre personne. C'est ça. Je peux payer quelque chose une fois, vas-y, repars avec, c'est bon, c'est fini. Ouais. Mais là, si je veux te donner de mon temps, il faut que je te donne tout de moi, c'est toute ma personne qui doit
accompagner. Et ça veut pas dire que j'en ai envie, c'est ça.
C'est ça.
Non, c'est ça qui va retenir les gens de donner de leur temps parce que ça coûte tellement. Des fois, Dieu va nous demander de faire des choses, d'accorder du temps à des gens qu'on trouve qu'ils ne méritent pas ou avec qui on n'a pas envie de passer du temps ou pour toutes sortes de raisons, on n'a pas juste pas envie de se sacrifier parce que c'est vraiment un réel sacrifice. On a tous 24 heures dans une journée et c'est à nous de gérer notre temps. Et faut toujours demander. Moi, je demande toujours je demande au Saint-Esprit de m'aider à gérer mon temps, mais ça, des fois, ça peut nous coûter. Des fois, je sais pas, ça prendre soin d'un parent, prendre soin de nos parents, prendre soin de nos enfants. Et comme tu dis, Annabelle, des fois, c'est juste plus facile de payer quelqu'un, dire je pourrais payer une dame de compagnie à mes parents, juste pour dire que c'est pas moi qui se sacrifie, qui va passer le temps avec eux, ou je peux envoyer mes enfants. Avec tout le temps avec la gardienne, la nounou. Mais en fait, les gens ont besoin. Des fois, c'est notre présence qui ont besoin.
C'est sûr. Ouais. Et puis, mais quelquefois, c'est même pas qu'on n'a pas envie finalement. C'est juste qu'on hésite. Enfin, on hésite. On est déchiré, on est partagé entre toutes nos activités, ok, j'ai vraiment envie de faire ça, mais je dois faire ça.
C'est ça.
Je devrais faire ça. J'aurais dû faire ça. Donc, au final, il reste plus beaucoup de temps dans l'agenda pour faire certaines choses. Et puis, quelquefois, il nous reste peu de temps sur lequel on a comme un contrôle. Parce que toutes nos journées sont quand même assez bien occupées. On sait que de telle heure à telle heure, ces heures-là sont données pour notre travail, pour nos études. De telle heure à telle heure, on sait que si on a une famille, on va peut-être devoir rentrer à la maison, faire à manger, etc. Et là, il te reste peut-être une heure le soir. Et là, qu'est-ce que je vais faire de cette heure-là? Et quelquefois, cette heure est tellement courte, à la fois, et tellement aussi précieuse. Ouais, voilà. 60 minutes. que tu peux être partagé entre,
je comprends.
Je pourrais aller voir mon ami qui a vraiment besoin de soutien, ou alors je pourrais rendre service à telle personne qui a besoin pour un déménagement, ou alors je pourrais rien faire. ou je pourrais juste prendre un moment avec mon mari ou avec ma femme, mais j'ai encore du travail à faire. Et souvent, on est partagé. Alors, du coup, comment être généreux avec notre temps quand on n'en a pas? Parce qu'on a conscience que oui, l'argent, les biens matériels, sérieusement, il n'y a comme pas de limite. Mais le 24 heures, on est limité, donc... comment faire?
C'est une denrée qui devient de plus en plus rare, maintenant, avec les femmes qui majoritairement travaillent. Dans le temps, c'était simple. Les mamans, elles étaient à la maison. Et puis, quand les enfants grandissaient, elles avaient plus de temps. Alors, elles allaient voir des voisines, elles faisaient toutes sortes de... C'est vrai, mais même dans les églises, la vie d'église a changé pendant les 30 dernières années. La nouvelle génération de femmes adultes n'a pas de temps. Parce qu'elles travaillent, elles ont 40 heures semaine, elles rentrent chez elles, elles ont le double boulot parce qu'il faut faire leur passage, la lessive, les enfants. Il y a plus de temps. Et le temps, c'est devenu tellement rare maintenant. Et c'est vrai que c'était typiquement, comment dire, une grâce que les femmes avaient de pouvoir offrir leur temps. Mmh. Et puis, en tout cas, ma génération, déjà, c'est devenu beaucoup plus petit. Puis votre génération, les jeunes, là, c'est encore plus. C'est-à-dire que les femmes, elles ont plus le temps. Et c'est tellement précieux qu'il faut... Il faut bien arbitrer à quoi je vais le passer. Parce que il y a aussi des femmes qui vont vouloir en faire trop, qui vont s'épuiser ou qui vont épuiser les leurs. Donc, j'allais dire maintenant, es-tu sûre de là où tu dépenses ton temps? Hein, c'est encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, c'est un enjeu. Hein, un enjeu familial, un enjeu de santé aussi. Parce qu'il y a des femmes, elles te font des journées de 12 heures, 13 heures. Donc, dans la jeune génération, là, c'est devenu indispensable de dire à quoi vraiment je vais passer mon temps et de bien peser.
Hein.
Mm-hmm.
Exact.
Oui, du coup, la nécessité, parce que c'est une question importante, la nécessité vraiment de consulter l'Esprit de Dieu pour nous guider, parce qu'effectivement, trouver une heure dans une journée pour accorder à quelqu'un, ça devient quand même... C'est difficile si on veut juste s'en tenir à nos propres plans et à la façon dont agenda est fixé. Mais c'est vraiment, moi je pense, capital à ce moment-là de demander à Dieu. Parce que parfois, même pour les choses qu'on doit faire, on n'a pas le temps de faire les choses qu'on doit faire. Ouais. Bon, maintenant, inclure des personnes
en plus.
Temps-là, c'est vraiment complexe. Donc là, c'est vraiment Saint-Esprit de nous diriger parce que Dieu va toujours ouvrir nos yeux sur les personnes qui ont un besoin qu'on peut pallier avec tout ce qu'on a à faire, en fait. Ouais. Dieu va toujours le faire. Et c'est souvent aussi d'accepter qu'il y ait des saisons. Il y a des saisons où on est plus ouvert par rapport à certaines choses et qu'on soit disposé vraiment à mettre un certain temps pour le faire. Moi, je suis pour qu'on ait des temps exprès, vraiment, qu'on se dégage. Ça peut être 30 minutes, ça peut être moins, mais qu'on ait vraiment des temps exprès.
Là, c'est bon d'avoir un agenda, Aurélie.
Bah, c'est ça, exactement. Là, on va parler d'agenda. Oui. Et puis après, demander à Dieu à qui ce temps pourrait servir.
Ouais.
Parce qu'au final, le temps, il est peu. Mais à qui ce temps-là qu'on a mis à part, pour qui serait le plus profitable, on va dire. Et je suis sûre qu'en faisant ça, l'Esprit de Dieu va nous guider vers la bonne personne et on n'aura pas ce sentiment où, j'ai pas fait ma part, mais on va vraiment aider quelqu'un en qualité en agissant ainsi.
C'est que Dieu va pas rajouter des heures dans notre journée, mais Dieu va pouvoir dégager du temps et puis aménager notre horaire et nos priorités parce que si quelquefois, comme tu disais, Anne, on se met, une pression de faire tellement de choses que ça en devient dangereux et si on n'a pas cette sagesse de dire ok Seigneur moi gérer mon agenda, je veux aider, je veux donner de mon temps, mais si on le donne juste comme ça, qu'on le distribue à tout va, etc., on va être complètement épuisé et on en a souvent parlé ici dans ces émissions là comme tu l'as dit, qui veut aller loin ménage sa monture.
Exactement.
Et ça, c'est une réalité. On peut être hyperactif pendant un an, mais bon, s'il nous faut 3 ans pour nous en remettre, je sais pas, je veux faire le calcul, c'est assez rapide. C'est pas très rentable comme façon de fonctionner. Mais d'avoir cette disponibilité, ceci dit, d'être prêt à réarranger nos priorités. Puis là aussi, où on veut, entre guillemets, réussir, parce que quelquefois, on met beaucoup d'efforts dans une carrière, parce que on veut réussir, mais en fait, en fonctionnant comme ça, on peut vite tomber dans une vie qui est finalement très très égoïste, parce que on mène notre temps dans des choses qui vont nous rapporter à nous les choses qu'on a jugées importantes, et puis c'est vrai qu'il va nous rester très peu de temps, et puis du coup on dit tu vois, j'ai pas de temps pour faire ça, mais en fait, c'est un choix, finalement, qu'on fait. Et quand tout le monde fait ce choix-là, il y a des gens qui payent aussi. Il y a des gens qui payent en solitude.
Voilà.
Des gens qui payent parce qu'ils ont été délaissés. Puis il y a des gens qui payent parce qu'ils vont fournir cet effort supplémentaire à ta place.
J'ai une amie qui est un petit peu plus âgée que moi, qui, ça fait quelques années, maintenant peut-être 3-4 ans, elle travaillait à plein temps. Elle était 40 heures semaine, elle travaillait dans des bureaux, un emploi de bureau. Et puis, c'est une femme qui a toujours beaucoup donné à l'église. Elle faisait l'éducation chrétienne. Elle faisait du bien au ciel. Elle allait visiter des gens malades. C'était une femme toujours très active. Mais arrivée, je dis, vers 55, elle s'est rendue compte que ben, si elle voulait vraiment investir dans la vie de ceux qui lui étaient chers, il fallait qu'elle se dégage du temps. Mmh. Donc, elle s'est mise à 4 jours semaine. Qu'elle a demandé à son patron d'enlever une journée. Donc, elle s'est mise à 4 jours semaine. Et le 5e jour de sa semaine, eh ben, elle visite des gens. Et elle fait beaucoup de bonnes choses. Je sais qu'il y a, plusieurs familles qu'elle a à cœur, qu'elle aide. Elle passe aussi du temps plus avec sa mère âgée, avec ses enfants, ses petits-enfants maintenant. Et si elle était restée à 5 jours semaine en se disant bah, « cet argent, j'en ai besoin », et ce n'est pas des gens qui roulent sur l'or. Hein, parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent et qui se disent « ouais, mais tu sais, elle peut se le permettre ».
Elle peut se le permettre. Mmh.
Mais non, je sais qu'ils ne roulent pas sur l'or. Ils ont juste ce qu'il faut, son mari et elle. Mais elle a décidé, c'est un choix. Elle s'est dit « la vie passe vite ». Et si je j'investis pas ce temps maintenant, ben c'est du temps perdu, c'est perdu pour toujours. Et elle a fait le choix, hein, c'est a été un choix qui lui a coûté hein, financièrement, il y a quand même 20% de son salaire qui s'est envolé, mais elle a choisi de le faire parce qu'elle estimait que c'était important.
Mais tu sais, cette semaine on parlait que notre générosité pouvait impacter des destinées. Et ça, la générosité de notre temps, au-delà de la générosité de monétaire, ben va justement impacter des destinées parce que des personnes ont besoin simplement, des fois c'est notre écoute, une oreille attentive, un besoin juste pour diverses raisons qu'on passe du temps avec eux et ce qu'on va donner comme temps, ben ça va changer plein de choses dans leur vie. Moi je pense j'aime ça passer du temps avec des gens des fois avec qui je peux partager des conseils par rapport à, des fois, à la maternité, comment élever des enfants et tout ça. Et j'aime, à la manière de Dieu, comme de raison. Puis j'aime dire, ben, que ça peut impacter la vie, non seulement de la maman, mais la vie des enfants. Et c'est du temps qu'on investit. Ça me coûte, peut-être, mais en même temps, c'est que ça change des vies. Et faut arrêter de juste dire ben moi ben parce qu'on vit dans cette société qui roule super vite. Ça va vite et oui, il faut choisir des fois entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mieux. Puis ben vraiment c'est ça comme tu disais, le Saint-Esprit, c'est notre meilleur conseiller pour nous aider à gérer le temps, qui on va aider, mais être généreux de notre temps, je veux dire c'est l'exemple que Jésus nous a donné aussi comme on a parlé au début de la semaine.
Mais de toute manière la société, le monde dans lequel on est, il va à une vitesse qui est pas normale en fait. Nous on essaie même en tant que chrétiens de suivre cette cadence, quelquefois d'entrer le ministère à cette cadence-là, et c'est pas naturel, c'est pas le rythme de Dieu. Et si les hommes à l'heure actuelle avaient la capacité même d'inverser les saisons, de faire ci et ça, c'est sûr qu'ils essaieraient de le faire. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire pousser des, décidément cette semaine j'en aurais parlé de légumes. Non, mais qu'on arrive à faire pousser des choses qui poussent pas normalement à cette saison-ci de l'année. Qu'on a envie d'avoir des tomates toute l'année, on a envie d'avoir du melon toute l'année, on a envie d'avoir toutes ces choses toute l'année. Et à une époque, on se posait pas la question. C'est la saison de tel légume, de tel fruit, t'en manges, et puis sinon t'attends l'année prochaine.
C'est la même chose pour les animaux. On bourre les animaux d'hormones pour qu'ils grandissent plus vite parce qu'ils sont pas gros assez vite à notre goût. Et je pense qu'il faut juste arrêter et prendre le temps. Mais c'est vrai, arrêter et sachez que je suis Dieu.
Exact.
Et là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Avec qui tu veux que j'investisse?
Mais ça coûte d'arrêter parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on fait partie, on est comme emporté dans ce tourbillon. Et quand toi, tu ralentis, t'as l'impression de ralentir la machine au complet.
Il y a beaucoup de pression, un peu
boulet, quoi.
Mais c'est t'as de la pression.
Tu suis pas. Et c'est pour ça, de savoir à qui on veut plaire finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour Dieu. Et on voit l'histoire de ce Samaritain qui s'est arrêté. C'était des hommes d'église qui sont passés devant lui, occupés par les choses de Dieu. Et cet homme-là, bah, il s'est arrêté. Il est allé voir. La Bible ne dit pas combien ça lui a pris de temps, mais bon, ça lui a pris du temps. Il s'est arrêté, il a pensé ses plaies, il l'a pris, il a fait un détour, il l'a amené dans
une auberge. C'est certainement pas dans ses projets. Bah, c'est exactement ça.
Et souvent, je sais pas, quand on lit les passages comme ça, c'est comme évident à la première lecture, bah oui, quand même, ils sont pas arrêtés. Bah moi, si j'étais là, je me serais arrêtée aussi. Mais tu reviens une fois, tu dis, et puis Saint-Esprit te rappelle une situation dans ta vie.
Tu l'as fait.
T'es pas arrêté.
Tu devais aller
là,
à l'église.
T'avais trouvé une excuse, ouais.
Mais après, tu sais, dans la manière, de peu importe où on se place dans la configuration, c'est que nous-mêmes, quelquefois, on peut mettre de la pression. T'attends quelqu'un, t'as un rendez-vous avec quelqu'un, il dit, bah, il a une heure de retard. Bah non, désolé, tu sais, j'ai vu quelqu'un et puis il avait besoin d'aide, mais je lui ai témoigné de l'amour de Dieu, etc. Ok, super. Tu sais, t'essayes de te réjouir, mais il y a une partie de toi. Bah moi, ça fait une heure que je t'attends. Oui. Et on fonctionne tous de cette façon-là. Et puis je pense qu'on peut mettre une pression aux autres et puis on reçoit de la pression. Et c'est que bah si tous, en fait, on accepte de reconnaître que chacun peut faire la volonté de Dieu et que nous-mêmes aussi, on veut faire la volonté de Dieu et que quelquefois, ça nécessite des ajustements, ben, on va être plus gracieux envers les autres. Et puis du coup, nous aussi, on va plus facilement accepter ce détour-là et puis de faire comme ce Samaritain, s'arrêter et prendre le temps de penser les plaies. Si, c'est pas juste arrêter pour une minute, quoi. Il a fait quelque chose.
Quand tu dis arrêter, moi, ça me fait penser à... Vraiment, s'arrêter, pas penser à 10 000 choses en même temps dans sa tête, parce que moi, j'ai vu des situations qui m'avaient quand même beaucoup interpellée, ça m'avait vraiment fait me poser des questions, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui se fréquentaient déjà depuis plusieurs années à l'église, et moi, quand j'étais arrivée, le temps aussi était passé. Mais je me suis rendu compte que il y a plein de personnes qui ne se connaissent pas, juste ça.
Ouais.
Pourtant ils sont ensemble. Ouais. Chaque fois ils sont. Ça fait plus d'un an, plus de 2 ans, plus de 3 ans qu'ils sont dans la même église. Mais ils se connaissent pas. Tu sais pas ce que l'autre y fait dans la vie. Tu sais pas. Mais pourtant chaque dimanche vous parlez.
Ouais.
Mais c'est qu'on prend pas souvent le temps de juste s'intéresser à la personne. On est habitué à des futilités. À...
Salut, oui, ça va, ça t'as va, passé va, une bonne bien, semaine.
Okay, bye.
Mais... On veut surtout pas que la personne réponde non.
Exactement.
T'as pas passé une bonne semaine.
Ah, dommage, j'étais pressée. On se racontera ça la prochaine fois.
On est rendu à des banalités comme ça. C'est... Moi, ça m'avait vraiment interpellée. C'était comme, mais en fait, on n'a plus le cœur même de vraiment s'intéresser aux personnes. Et c'est des personnes proches, parce que je pense que si on le fait pas avec des gens avec qui on est en contact, ben c'est pas qu'on va voir comme le Samaritain, il
c'est
a
ça,
vu
un
homme dans la rue. C'est pas à ce moment-là que du coup tu te découvres un intérêt spécial. C'est vraiment ça commence.
Que tes entrailles de compassion s'agitent.
C'est vraiment là juste parce que oui, on est occupé, mais même là où on est occupé, on peut être généreux avec notre temps. Juste, même les personnes qui sont là autour, comment est-ce que tu t'intéresses à elles? Tu sais pas si la personne, je sais pas, dans le pays où elle est, vit avec ses parents, est-ce qu'elle est aux études? Parce qu'en ayant l'information, mais on peut facilement aider quelqu'un. En sachant que, ok, cette personne-là a fait des études de médecine, mais je peux te connecter avec quelqu'un qui sera un accélérateur pour ta vie à toi. Mais ça, il a fallu que je prenne le temps de te parler, de t'écouter, pas juste de faire des banalités avec toi, mais vraiment de t'écouter et de comprendre, d'aller chercher au fond que, ok, mais voici comment je peux aider cette personne-là. Et quand on se dispose comme ça, par la suite, c'est aussi un cœur qu'on est en train de développer et qu'on va voir des personnes qui auront d'autres besoins, comme dans la rue, comme ce Samaritain, il l'a vu. Ce sera plus une peine pour nous de poser certains actes. Et puis, ce sera pas pour rechercher une gloire. Mais j'ai vu quelqu'un, je l'ai aidé et tout, je suis un bon chrétien. Non, parce que un bon chrétien commence là, dans son entourage, et après, il se diffuse vers l'extérieur. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer aussi dans nos rapports avec les autres.
Mais on parle du temps, puis on a commencé l'émission en disant que c'était une denrée rare et de plus en plus rare. Puis là, je voudrais faire peut-être une petite parenthèse parce qu'elle me semble importante. On est entre femmes, on parle à des femmes. Et les générations précédentes, c'était les femmes qui assuraient ce rôle social-là dans la famille, dans l'église. C'était les femmes qui prenaient le temps de s'intéresser aux autres, qui prenaient le temps de préparer des choses pour la collectivité, qui prenaient le temps parce que, oui, quand elles avaient les enfants petits, elles étaient prises dans le tourbillon comme toutes les jeunes mamans. Mais les enfants grandissant, il y a des heures de temps qui se dégageaient et elles pouvaient investir du temps dans la vie des autres. Et malheureusement, ma génération et la génération plus jeune qui vient derrière, on a été prises dans un tourbillon parce que malheureusement, je vais avoir l'air vraiment d'un dinosaure de vous dire ça, mais c'est bien que les femmes travaillent. Je suis pas en train de dire que c'est mal et je mets pas ma casquette de
dinosaure.
D'arriérisme, de dinosaure. Mais juste prendre juste deux secondes pour réfléchir à ça. Je suis pas en train de dire que c'est mal de travailler. Je suis en train de dire que qu'est-ce qui faisait la stabilité de l'Église, de la famille, de la société avant, c'était que la femme avait le temps de s'investir dans la vie des autres, parce qu'elle l'avait pris. Ça ne veut pas dire qu'elle se faisait les ongles toute la journée. Les femmes étaient très actives avant d'être dans le marché du travail. Mais leur activité était vouée au service de l'autre. Les grands-mamans, les voisines, les tantes, les grandes sœurs. Et la vocation de la vie de femme était de s'investir dans la vie des autres.
Exact.
Et maintenant, les femmes ont toujours ce désir en elles, parce qu'elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont voisines, elles sont amies, elles sont grand-mères, maman. Elles veulent toujours, elles ont ce désir d'investir dans la vie des autres, mais la société, avec son rythme, leur a volé ce temps. Parce que j'estime que c'est quasiment du vol, c'est un rapt. Et le temps des femmes a été volé. Sous un mirage de liberté, on a dit aux femmes, soyez des femmes libres, allez travailler dehors, et on les a mis sous un nouveau joug d'esclavage. Et maintenant, il y a plein de femmes qui n'ont même pas le choix d'aller travailler parce qu'elles pourraient pas subvenir à leurs besoins, aux besoins de la famille. Parce que maintenant, on a une société qui s'est bâtie sur des familles faites de deux salaires. Comment tu veux vivre avec un salaire quand maintenant tu es dans une société où tout le monde en a deux? Enfin, beaucoup de monde en ont deux. Et donc, tu peux plus. Donc, il y a eu un engrenage qui s'est enclenché. Les femmes ont été prises dedans. Et il y a beaucoup de femmes qui ont même plus le loisir de dire non, je veux investir mon temps dans la vie de mes enfants, de mon mari, de ma sœur, de mon voisin.
Et en fait, parce que c'est même rendu mal vu à un certain point.
Oui, mais t'as l'air d'un dinosaure.
Oui, c'est ça, de vouloir prendre soin de nos enfants, de nos propres enfants. Des fois, ça peut être mal vu de vouloir prendre soin de nos parents qui sont qui vieillissent, de vouloir prendre soin de quelqu'un de malade dans la famille. Je fais juste penser dans l'ancien temps. Ici au Québec, on appelait ça les relevailles. Quand quelqu'un accouchait, la voisine ou ta sœur ou ton amie venait pendant 40 jours dans ta maison.
Ben oui. C'est long, 40 jours.
Ouais. Mais il y avait les relevailles et je me dis, comme tu dis, c'est vraiment ça. La femme était au service des autres. Puis je me dis, ben la société se portait bien dans un certain sens parce que les gens s'entraidaient parce qu'on avait du temps pour les autres.
C'est qu'il y a personne qui a pris le relais de la femme, de ce qu'elle a pu faire durant toutes ces années et qui avait amené une certaine stabilité. Mais comme tu dis, on n'a pas le prétexte de refaire le monde et puis d'avoir la solution à tout parce que on est un peu coincé en tant que femme dans un système aujourd'hui. Et en fait, faut vraiment demander l'aide du Saint-Esprit pour savoir comment faire avec notre propre vie. Parce que comme tu dis, il y a des parents qui sont dans des hospices, qui meurent tout seuls. Ça arrive tout le temps, quoi, ce genre de choses. Alors qu'avant, on n'aurait jamais
personne âgée,
quoi.
Tu l'apprenais à la maison, ton père âgé ou le grand-père. Le grand-père de mon mari, il a jamais mis les pieds dans une maison de retraite. C'est sa belle-fille qui l'a gardé toute sa vieillesse. C'était normal. Mais maintenant, on peut pas blâmer les femmes. Les femmes, elles travaillent parce qu'elles sont quasiment obligées de travailler dans certains lieux. T'habites à Paris, là. T'as pas le choix d'aller travailler parce que si tu dois payer quasiment tout ton salaire de loyer.
Ouais, c'est ça.
On peut pas les blâmer, mais on est prisonnière d'un système. C'est pour ça que, en tout cas, moi, j'ai eu le privilège de pouvoir faire le choix de rester chez moi pendant quasiment juste 12 ans à m'occuper que de mes enfants, de mon mari, de mon église. Et puis après, quand j'ai travaillé deux jours semaine. Puis je travaillais de chez moi en plus, donc c'était différent. Mais j'estime que c'est un privilège, mais c'est un privilège auquel il faut aspirer. J'allais dire, j'ai eu ce privilège parce que je l'ai demandé au Seigneur. Et il faut qu'on réfléchisse notre mode de vie. Puis si on a le privilège d'être, par exemple, une jeune femme, de réfléchir à quelle vie je veux, quel genre de vie je veux, qu'est-ce que je veux donner à mon entourage et faire son choix de vie. Et selon ce choix de vie, tu n'iras pas vivre à Paris si tout ton salaire doit disparaître dans le loyer. Tu vas choisir un lieu où c'est moins cher, où tu auras moins besoin d'aller chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de base. Et tout ça, c'est tout s'enchaîne et tout s'imbrique. Et tes choix de vie vont faire que tu vas pouvoir te dégager du temps ou pas. Mmh. Et c'est, je pense que ça vaut la peine, surtout quand on commence sa vie d'adulte, de se poser, de dire qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Mmh. Et à quoi je vais passer mon temps ? Parce que si tu mets les pieds dans un 40 heures semaine, que tu veux une famille, t'en auras pas de temps. Tout va être dévoré de la première minute où tu te lèves jusqu'à la minute où enfin t'es dans ton lit. Et il n'y en aura plus de temps.
Mmh. Et lorsque la Bible nous dit « ne vous conformez pas au siècle présent », on prend souvent ce verset-là pour une vie de sainteté,
de sanctification.
Mais c'est aussi de pas suivre le courant, que ce soit un courant social, un courant économique, des courants politiques aussi. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus subtil parce que on partage la même terre, on paye notre loyer, on paye nos factures, on est... On vit quoi dans cette vie aussi, et du coup de pas se conformer au siècle présent, c'est dans nos mentalités avant tout, et d'être prêt à faire des choix que personne ne fait, des choix qui sont pas populaires, des choix qui vont être totalement différents, mais avisés à cause de la sagesse de Dieu qui nous a frappés et qui nous fait dire ok, à un moment donné, je suis juste en train de faire comme tout le monde, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est pas quelque chose qui va me plaire, c'est pas quelque chose dont je serais même fière. Donc, comme tu as dit, Anne, c'est important de se poser ces questions. Puis tu dis, tu veux pas ressembler à un dinosaure, et t'en es loin.
Mais tu rigoles, mais j'en suis loin. Mais quand j'étais une plus jeune femme, quand je sortais de l'école de commerce, toutes mes copines faisaient commencer des carrières brillantes et que moi, je leur ai dit droit dans le fond de la rétine que je restais à la maison m'occuper de mes enfants, je suis passée pour un dinosaure.
Mais je te comprends, j'ai vécu la même chose.
Tu as vécu la même chose. Nous a regardées comme des filles complètement...
On ne jugera pas, Aurélie.
Non, mais je sais pas encore ce que je réponds.
Notre choix n'engage que nous.
Exactement.
Mais il faut qu'on puisse réclamer, exiger d'avoir la liberté de le faire.
C'est ça.
Et que ça nous empêche pas, en fait, que tout ce qui nous est comme imposé nous empêche pas de faire ce qui est important, et de pouvoir aimer, de pouvoir s'occuper de notre foyer, s'occuper des gens qu'on aime, des gens que Dieu nous a confiés, dont nos enfants. Et la Bible dit que celui qui prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et ce genre de paroles, c'est sûr, ça fait un petit peu trembler. Tu dis oui, mais je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça. Mais devant Dieu, qu'est-ce que t'es finalement obligé de faire ? Et je pense que ça doit être un filtre dans nos activités, dans notre manière de passer du temps. Devant Dieu, qu'est-ce qui lui est agréable et qu'est-ce qui va rester au final après tout ça ? Donc vraiment, mesdames, on sait que c'est un défi de pouvoir gérer notre temps, de pouvoir dégager du temps, mais je crois qu'il y a une solution, que le Saint-Esprit est notre conseiller, que c'est lui qui est le maître et l'agent des temps et de notre temps, et que c'est important qu'on puisse lui confier nos vies, lui confier nos choix, de la première heure à la dernière heure de notre journée, et que surtout tout ce qu'on appelle nos obligations ne nous empêche pas d'accomplir le premier commandement, de pouvoir nous aimer les uns les autres et de pouvoir donner de notre temps aux autres. Si on n'arrive pas à dégager une minute pour personne autour de nous, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et là, c'est important de revenir au Seigneur et puis de le laisser agir. Et peut-être que ça va briser votre vie, tout ce que vous avez voulu construire depuis des années, mais ça en vaudra vraiment la peine parce que tout le reste passera. Et ça, c'est ce qui va vraiment rester, c'est ce qui plaira au cœur de Dieu aussi. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes que vous prendrez le temps de regarder.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.